Bonjour et bienvenue pour le 13e numéro d'En Spectateur, votre émission culturelle sur les ondes de Transistor. Et pour ce 13e numéro, en cette veille de Saint-Nicolas, j'ai remisé au placard les pères et mères fouettards de l'émission, Irène, Antonio et bien sûr Florent, et je me suis muni d'une grande hotte pour vous donner des idées et des envies de cadeaux. Décembre s'installe, l'hiver approche et avant les fêtes de Noël, vous pouvez vous faire plaisir tout de même en allant au théâtre ou à l'opéra, bien sûr. Alors je rappelle que l'abus de spectacles vivants ne nuit pas à la santé et qu'il est conseillé de manger au moins 5 fruits et légumes culturels par mois. Et c'est loin d'être impossible, entre les laitues livres, les fraises films, les cerises CD, les endives expositions et les performances prunes, et tous les autres fruits et légumes à croquer dans le verger de la culture. Et cette semaine, dans ma hotte de Saint-Nicolas, je vous propose 3 clémentines spectacles pour vous aider à remplir ce quota salutaire. Tout d'abord, je vous emmène au Théâtre des Marronniers, où, après le magnifique spectacle Trace de Grégoire Blanchon, sera joué Chambre avec vue sur le fond des mers, d'après l'œuvre d'Ibsen, du 11 au 16 décembre 2012. Alors pour nous en parler, je vais recevoir dans quelques instants la dramaturge Estelle Baudou et la metteuse en scène Claudine Charnay, qui donc en assure toutes les deux l'adaptation. Retour à l'ENS ensuite pour une rencontre avec Vladimir Lifschutz, Juliette Père, tous deux metteurs en scène du prochain spectacle qui sera donné au Théâtre Cantor, Les Ombres de Peter Pan. Enfin, je vous guiderai jusqu'au Théâtre de Vénissieux, où les 13 et 14 décembre, vous pourrez assister à la célèbre comédie de Molière, Les Femmes Savantes. Agnès Larocque, qui en assure la mise en scène, répondra à mes questions. Vous avez l'eau à la bouche? Eh bien, le temps d'un jingle, et nous passons à table. Alors c'est d'abord au Théâtre des Marronniers que je vous emmène, puisque du 11 au 16 décembre sera joué Chambre avec vue sur le fond des mers, d'après l'œuvre d'Henrik Ibsen. Et pour parler de ce spectacle assez étonnant, vous allez le voir, je reçois Estelle Baudou, la dramaturge, et Claudine Chardet, la metteuse en scène. Alors bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors spectacle étonnant, je le disais, puisqu'il s'agit d'une pièce qui mêle les textes et les personnages de 5 œuvres d'Henrik Ibsen, Le Canard Sauvage, Romer Solm, La Dame de la Mer, Hedda Gabler et John Gabriel Borkman, et qui mêle ça avec la vie du dramaturge. C'est ça qui se joue dans Chambre avec vue sur le fond des mers, c'est la vie intérieure d'Ibsen, en somme. Alors pourquoi cette envie l'une et l'autre de faire une pièce autour du personnage d'Henrik Ibsen et de son travail? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans son œuvre et comment s'est faite la rencontre?
Alors tout d'abord, moi j'ai découvert Ibsen quand j'ai commencé mes études théâtrales. Et du coup, c'est vraiment un des premiers textes qui m'a marqué et qui m'a donné envie d'aller sur le plateau. Et au fur et à mesure, je l'ai découvert, donc j'ai eu envie de l'approcher. Ibsen, c'est un auteur qui est extrêmement monté partout. Et il y a tellement de grands metteurs en scène qui ont monté, notamment Hedda Gabler et Maison de Poupée, que moi, à mon niveau, je voulais pas m'attaquer à une pièce totalement d'Ibsen. J'ai eu envie un peu de détourner et du coup de me concentrer sur l'auteur lui-même et du coup créer une légende autour de lui, d'aller comprendre quel rapport il avait avec les femmes. Et qu'est-ce qui nous donnait de lui dans ses textes dramatiques?
Alors le point de vue de la dramaturge maintenant, Estelle, toi, c'est comment se fait la rencontre avec Ibsen aussi? Tu connaissais déjà avant de bosser sur ce projet avec Claudine?
Oui, bien entendu. Moi, ma rencontre avec Ibsen, c'est la mise en scène d'Hedda Gabler par Ostermayer, qui
d'accord,
est passé
ouais.
à Lyon il y a quelques années maintenant,
ouais.
et que j'ai vu complètement par hasard, sans connaître du tout Ostermayer.
Mmh.
Et c'est un spectacle qui m'a énormément marqué et qui a beaucoup orienté ensuite mes choix dramaturgiques et ma perception de la mise en scène. Et quand Claudine m'a parlé du projet qui était simplement de travailler sur Ibsen, on est même passé par une étape où on s'est demandé si on n'allait pas monter une œuvre de jeunesse ou quelque chose qui est très peu connu ou très peu monté, avant de se dire que non, on avait quand même envie de passer par les scènes du répertoire. Mais pour les faire jouer par des jeunes comédiennes, des jeunes comédiens, parce qu'on n'a pas sous la main des gens qui ont la carrure pour jouer Hedda Gabler, il fallait transformer ce contexte-là. Et c'est en ça que c'est un point de vue dramaturgique que j'évoque, c'est qu'on a monté les textes de façon à ce qu'une jeune troupe puisse porter ce qui d'habitude est porté par des très grands comédiens.
Finalement, vous êtes approprié Ibsen.
Complètement.
Et dans Chambre avec vue sur le fond des mers, c'est une pièce sur la vie intime et intérieure d'Ibsen, je le disais tout à l'heure. Une vie peuplée de femmes, tu en parlais Claudine à l'instant, celle de sa vie, celle de son œuvre indifféremment, et que votre représentation va mêler et entremêler, puisqu'en effet, on va parler de son épouse, Susanna, qui va traverser la scène, mais on va aussi parler de ses héroïnes. Tu parlais d'Eda Gabler, il y aura aussi Nora, il y aura aussi Madame Alving. Et finalement, la relation entre Ibsen et les femmes, elle est assez ambiguë, puisqu'il était capable à la fois de déclarer à propos du mariage que c'était vivre à des étages séparés, se voir pendant les repas, se dire vous, et en même temps, au centre de toutes ces pièces, et notamment des drames psychologiques, ben, y a la femme, on en citait certaines qui ont marqué, comme Nora, comme Eda. Donc il y a une ambiguïté, et on se demande si, finalement, s'il n'a pas mis en scène des femmes pour mieux les comprendre. Et vous avez fait un petit peu le travail parallèle, c'est-à-dire que vous avez mis Ibsen sur scène pour essayer de mieux le comprendre aussi.
Exactement. On a surtout aussi voulu confronter Ibsen avec ses femmes, parce qu'il se cachait énormément. Quand il a été directeur du théâtre de Bergen, il n'arrivait absolument pas à diriger ses comédiennes. Il faisait toujours passer les informations par ses assistants. Il y a un rapport physique de proximité qui ne s'est presque jamais fait, excepté avec sa femme, forcément. Oui. Mais il y avait cette... bah, en même temps, il a eu un fils, donc il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Mais il y a quand même... il y a une peur et en même temps une admiration, parce que pour qu'il ait écrit ces magnifiques pages sur les femmes, sur tout ce... toutes ces choses auxquelles elles aspiraient et que lui, surtout, a compris, alors que finalement, il les côtoyait pratiquement jamais. Mais je pense qu'il les observait beaucoup et qu'il avait envie de les comprendre, mais il l'a fait d'une manière finalement assez distancée.
On le voit avec ce que dit Claudine, c'est absolument pas un spectacle sur la vie d'Ibsen, c'est pas un spectacle biographique. Non. Et d'ailleurs, ton travail de dramaturge, il est hallucinant, parce que tu parlais des scènes du répertoire, t'as mêlé 5 textes, des personnages tous azimuts, en plus avec certes des éléments biographiques. Et ça fait Chambre avec vue sur le fond des mers, c'est un travail colossal.
Oui, on a passé beaucoup, beaucoup de temps à faire ce montage.
Ça, j'imagine, oui.
On a passé, je pense...
Mais ça fait un an et demi qu'on est sur ce
projet.
Ouais.
Et avant de livrer le texte, donc ça fait maintenant un an qu'on a sorti le texte, en gros, on a passé 4 mois à tout lire. On a lu toutes les pièces, mais on a aussi lu des biographies et lu tous les textes secondaires d'Ibsen, toutes les lettres, tous les poèmes qui sont, pour la plupart d'ailleurs, pas très bons.
Il faut le dire.
En tout cas, inexploitable. On ne pouvait pas prendre un poème et le monter sur le plateau. D'ailleurs, il y a un poème dans le montage, c'est un poème de Baudelaire qu'on a inséré. Ouais. C'est pas un poème d'Ibsen, c'est juste pas possible. Ouais.
Recul critique, donc vous n'êtes pas en admiration absolue devant Ibsen.
Si, sur les textes de la fin de sa vie, enfin de sa grande période de dramaturge avec ses textes de théâtre. Mais c'est vrai que les textes de jeunesse, ben ici, il s'est fait la main, quoi. Et c'est, en même temps, c'est aussi génial de voir quelqu'un qui a écrit ça et après qui sort Eda Gabler. C'est quand même assez incroyable. Et c'en est drôle. On aurait pu aussi l'utiliser pour se moquer même du dramaturge. Bon, ce sera peut-être le second volet. Je sais pas. Il y a tellement,
à peu près la matière.
Encore de facettes à exploiter. C'est ça aussi qui est génial avec cet auteur.
Alors on parlait tout à l'heure des montages entre la sphère privée puis la sphère théâtrale, entre tous les différents textes aussi de sa fin de vie, mais il y a aussi un montage dans les personnages, puisque sur scène il y a 4 comédiennes, et ces comédiennes, elles sont des personnages entités. C'est comme ça que tu les définis dans ton projet, c'est ça?
Ouais.
Oui, c'est ce qu'on a décidé de faire, parce qu'une fois qu'on a eu plus ou moins fait émerger les scènes qu'on voulait mettre dans ce montage, qui nous paraissaient cohérentes par rapport à ce qu'on voulait dire de l'évolution des personnages féminins dans l'œuvre d'Ibsen, alors évidemment on n'a pas gardé la moitié des scènes qu'on avait choisies au départ, parce que c'était impossible. On a essayé d'associer les personnages entre eux, de se poser la question, ben, finalement, on a des jeunes filles ou des filles très jeunes, voire des enfants sur certaines pièces. Puis dans d'autres cas, on a des femmes très mûres. Et donc, on passe comme ça d'un tableau à l'autre. Donc, nous, notre texte, il est constitué de 3 tableaux. Et on a un premier tableau qui est plus sur l'enfance, ou du moins sur l'adolescence de ces filles, de ces femmes, de leur rapport du coup au père ou au futur mari. On va avoir un second tableau qui est la femme mariée en général, donc le rapport à l'époux. Et dans le troisième tableau, on a des femmes plus mûres, donc le rapport à l'époux, mais plus tard dans la vie, et au fils. Donc chaque fois, c'est le rapport à un personnage masculin. On n'a pas de rapport entre une femme et sa fille.
Donc on voit l'évolution des personnages et de leur rapport avec Ibsen, puisque Ibsen, il est aussi présent sur scène. Mmh. C'est ça ?
Il est toujours présent, et d'ailleurs, c'est un choix qu'on a fait scénique, c'est tout le monde est tout le temps présent.
D'accord.
Même les femmes, les autres femmes sont présentes quand il y a une scène qui se joue, même si elles sont en retrait, elles sont toujours là. Et il y en a une particulièrement qui gère tout ça que vous avez évoqué, qui est Susanna,
voilà, ouais.
Qui est la femme de l'ombre et l'épouse d'Ibsen et qui aurait pu être le moule de toutes ces femmes et qui est aussi la force qui a permis à Ibsen d'écrire toutes ses œuvres et d'assumer les critiques et de faire aussi d'être reconnu de son vivant de manière internationale. Enfin, c'est quand même tout grâce à Susanna.
Grâce à Susanna, et donc Susanna sur scène, comme toutes les autres personnages constamment. Et sur scène, justement, une scène qui ressemble à un atelier de menuisier ou alors de décorateur de théâtre, c'est selon. Mais alors en surdimensionné, on trouvera une lampe d'architecte immense, des tiroirs géants, un tabouret colossal. Alors pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est pour rappeler le côté artisanal de la création ? Ou alors est-ce que c'est pour montrer cet univers complètement onirique, du fantasme ?
Oui, bah il y a tout le côté en effet fantasmatique, la puissance de la création, et on voulait pas réduire Ibsen à un bureau d'écrivain, le mettre derrière du papier et une feuille, surtout que lui-même c'est toujours considéré un peu comme a toujours comparé son métier d'écrivain à celui d'architecte, et du coup on trouvait ça plus intéressant de le mettre dans ce milieu-là aussi de création même physique du bois, de tout ça, de l'atelier.
Dans la poussière et dans les copeaux, parce que dans votre décor, vous avez aussi des maquettes. Alors, à quoi elles servent, ces maquettes ?
Bah, du coup, c'est la troisième échelle. Il y a l'échelle géante de la création. Les comédiens sont trop petits pour le décor. Et même Ibsen, d'ailleurs, je voudrais bien dire ça avant de réagir sur les maquettes.
Oui, je t'en prie, vas-y.
C'est le fait qu'à aucun moment, on a une prétention biographique.
Oui, on le disait tout à l'heure. Ouais.
Voilà, c'est vraiment un personnage qui surgit. C'est, de toute façon, on a trop peu d'éléments pour faire de la biographie. Donc on dit Ibsen, mais c'est une simplification. En fait, c'est dans notre montage, c'est l'homme. On dit jamais Ibsen. Donc là, dans notre conversation, on déforme un peu parce que je suis même pas sûre que ça apparaisse de façon aussi nette dans le spectacle. Et voilà, c'est important à souligner. Et donc ces maquettes, ça, c'est encore le c'est donc la troisième échelle, l'échelle la plus réduite, qui permet, d'un point de vue purement pratique, de suivre le montage, parce que chaque maquette correspond à une pièce. Donc en fonction de la maquette qui est éclairée, on arrive à suivre dans quelle pièce on se trouve ou comment on bascule de l'une à l'autre. C'est quand même très important parce que c'est compliqué quand on ne connaît pas l'œuvre d'Ibsen, sinon
c'est ça,
de suivre.
Ouais.
Et aussi, c'est... ce sur quoi influe le personnage masculin, cette espèce d'allégorie d'Ibsen, du coup, on pourrait dire, qui peut modifier un peu ce décor, les décors, comme si on avait sous les yeux, dans la maquette, ce qu'on pourrait avoir sur le plateau si on était en train de monter la pièce.
D'accord. Alors, dans le décor, il y a les maquettes, il y a le décor lui-même surdimensionné, et au fond, il y a une porte. Alors, est-ce que c'est derrière cette porte que se cache le fond des mers, cette magnifique expression très poétique de votre titre ?
Ça se peut.
Ouais.
Mais c'est aussi c'est un endroit qui représente beaucoup de choses. Comme donc on disait, tous les personnages sont présents sur scène. Donc, on est quand même dans un huis clos. Mmh. Et c'est la seule porte de sortie.
Donc, échappatoire ?
On ne sait pas.
Ouais.
Voilà, c'est aussi tout cet enjeu-là, de questionnement aussi de ces frontières-là. Mmh. Est-ce que derrière la porte, il y a quelque chose ? Est-ce que derrière cette porte, c'est tous les fantasmes auxquels aspirent les femmes et qui sont que Ibsen a extrêmement bien traduit justement dans ces décompensations chez Hedda Gabler où ça finit toujours, tout commence très bien et tout finit très très mal. Donc, mais ça peut être aussi le grenier du canard sauvage, ça peut être la chambre de John Gabriel Borkman. Il y a aussi toutes ces références-là dans l'œuvre même d'Ibsen, où il y a toujours ces endroits où on ne va pas forcément, où on entend des choses, et où on perçoit des choses, mais on ne les voit pas concrètement. Donc c'est des milliers de choses derrière cette porte.
Alors tu parlais de cet univers d'Ibsen, t'évoquais à l'instant Le Canard Sauvage et Dagableur. Je suis auditeur et j'écoute depuis tout à l'heure cette interview et je me dis que ce spectacle il est quand même vachement bien et que je suis peut-être intéressé par venir au Théâtre des Marronniers, mais je me dis par contre Ibsen je connais pas, alors est-ce qu'il faut que je lise les 5 pièces avant de venir ou, pour comprendre votre spectacle ou pas?
Non, on a vraiment essayé, c'est vrai que la démarche peut sembler très intellectuelle, mais faut pas oublier qu'après nous, en effet, on a donné, on a ces éléments, on les a nous, après le texte on l'a donné aux comédiens et c'est aussi les comédiens qui s'en ont emparés et qui maintenant le jouent avec ce qu'ils sont, et on a essayé quand même de créer des cohérences dans les personnages comme l'expliquait tout à l'heure Ibsen, du coup on arrive quand même à avoir un fil conducteur dans les personnages des femmes, on a les maquettes qui nous aident. Et les scènes ont été aussi choisies pour qu'il y ait une cohérence, un fil rouge qui nous permette d'évoluer dans cette œuvre-là, dans Chambre. Et il n'y a pas du tout besoin d'avoir Ibsen. Et ça n'a pas forcément aussi pour. Enfin, ça n'a pas un but didactique. Le but, ce n'est pas de ressortir en se disant ah bah ça y est, je connais Ibsen, je connais son œuvre. Non, parce qu'en plus, comme le disait Ibsen, ce n'est pas un spectacle biographique. Donc on ne va pas.
Je t'ai dit Ibsen.
C'est très beau. Ça fait deux fois en plus, je crois. Tout à l'heure, j'ai entendu, je fais.
Mais non. C'est plutôt un bon compliment. Plutôt un bon compliment quand même, Estelle.
Oui, ça va.
Alors, Estelle Ibsen, justement, est-ce que c'est votre pièce, est-ce que c'est un bon moyen de rentrer dans l'univers tout de même d'Ibsen, pour celui qui ne connaîtrait pas?
Oui, bien entendu, j'espère que ça va donner envie d'aller
lire,
voir
hein.
D'autres choses. Et d'ailleurs, c'est ça aussi les maquettes, c'est qu'on a essayé d'aller voir les scénographies qui avaient existé. Ouais. On a beaucoup potassé les mises en scène existantes et il y a quelques clins d'œil dans les choix de maquettes qui ont été faits aussi aux mises en scène précédentes et j'espère aux mises en scène futures.
Oui. Et... Peut-être les vôtres d'ailleurs.
Peut-être. Peut-être pas tout de suite.
Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous deux, Estelle Ibsen et puis à Claudine, je ne sais pas comment te nommer, mais d'être venue pour vous présenter.
Claudine Susanna, peut-être.
Claudine Susanna, très bien. D'être venue pour nous parler donc de Chambre avec vue sur le fond des mers qui sera jouée, on l'aura compris, du 11 au 16 décembre au Théâtre des Marronniers. Alors, sur scène, on retrouvera Fanny Bloch, Élise Clarac-Hordé, Amélie N, Élodie Musel et Maxime Roger. Aux Lumières, Clémentine Pradier et Sylvain Béguin, sans oublier la maquettiste dont on parlait tout à l'heure, Léa Mio. Merci.
Merci à vous.
Retour à l'ENS maintenant pour découvrir Les Ombres de Peter Pan qui sera joué les 12, 13 et 14 décembre à 20h30 en Théâtre Cantor. Et pour cela, je reçois les deux metteurs en scène, Juliette Père et Vladimir Lifschutz. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, tout le monde connaît l'histoire de Peter Pan et de Neverland, le pays imaginaire, où les enfants ne grandissent pas, ils sont même perdus, selon la dénomination, où le temps est comme aboli, où les Indiens combattent les pirates, où les fées et les sirènes existent. Tout le monde a vu le dessin animé de Disney de 1953, c'est pas très récent d'ailleurs. Tout le monde a vu le film de Steven Spielberg aussi, où Robin Williams joue un Peter Pan adulte qui revient dans le pays imaginaire, ramené par une fée clochette incarnée par Julia Roberts pour combattre Hook, joué par Dustin Hoffman dans La Revanche du Capitaine Crochet. Mais tout le monde a oublié que si le Disney est très vieux, eh bien, au départ, on a une pièce de théâtre encore plus vieille, signée James Matthew Barry, d'après les aventures d'un personnage, Peter Pan, donc, qu'il a inventé en racontant des histoires au fils d'une très bonne amie, avec lesquelles il a entretenu une relation assez ambiguë. Cette amie, c'est Sylvia Llewellyn Davis. Tout le monde a oublié donc cette pièce, Peter Pan ou le garçon qui ne voulait pas grandir, qui a été transformée en 1911, c'est-à-dire quelques années après sa création en 1904, sous forme de roman. C'était Peter Pan et Wendy. Alors tout le monde l'a oublié, sauf vous, évidemment, mais aussi Mark Forster, réalisateur qui signait en 2004 le film Neverland. Donc on peut se demander si votre projet n'est pas un petit peu inspiré, on y reviendra après, puisqu'en effet il signe un biopic sur la vie du dramaturge Barry, qui est interprété par Johnny Depp, et qui était en manque d'inspiration et qui rencontrait donc Sylvia Llewellyn Davis, qui était jouée par la magistrale Kate Winslet. Alors, est-ce que vous avez été justement inspiré un petit peu dans la genèse de votre projet par ce film de Forster, et comment vous êtes arrivé à vous intéresser au personnage de Peter Pan?
Alors effectivement, en voyant, moi, en découvrant le film Neverland, je me rappelle que je m'étais dit, mais tiens, c'est une pièce de théâtre en fait à la base, ce que je ne savais pas parce que je connaissais le roman, mais je ne connaissais pas forcément la pièce. Et c'est vraiment des années plus tard que j'ai pu lire la pièce parce qu'elle était très difficile d'accès.
À trouver, ouais.
À trouver, voilà, en édition, c'est compliqué. Un ami me l'a prêté et c'est là que je me suis dit que c'était en fait très très intéressant de découvrir Peter Pan sous la forme la plus ancienne, la pièce de théâtre, où il y a vraiment tout est déjà dit, et puis après ce sera développé dans le roman et puis les œuvres qui ont suivi l'adaptation. Mais en tout cas, c'était intéressant aussi de faire redécouvrir ça, parce qu'on connaît beaucoup le roman, comme tu l'as dit, et moins effectivement la pièce de théâtre qui est à la base de tout, de toute l'histoire de Peter Pan.
Alors Juliette, toi, ta rencontre avec Peter Pan ?
Alors moi, c'était un peu différent, puisque en fait, c'est vrai que moi, je connaissais Peter Pan depuis mon plus jeune âge, grâce à Disney et à toutes les images que ça peut renvoyer. Après, je m'en suis vraiment intéressée quand Vladimir est venu me voir en disant, bah voilà, Juliette, j'ai pour projet de monter une adaptation de la pièce de théâtre Peter Pan avec des danseuses, avec des projections vidéo, avec de la musique composée spécialement pour le spectacle. Est-ce que ça te dit de commettre en scène ? Ben, moi, j'ai dit oui, forcément. Donc,
ça
voilà.
Se refuse pas.
Oui, exactement. Ouais. Et donc, c'est vraiment que à ce moment-là que je me suis vraiment intéressée à la pièce de théâtre en elle-même. Et en fait, c'est une pièce qui est vraiment fascinante parce que, justement, elle a vécu avec l'auteur pendant toute la durée de sa vie. Elle a été transformée, elle a été remaniée. Et du coup, il y a vraiment plein de possibilités quand on veut s'approprier un tel projet de création, quoi.
Oui, c'est ça, ce qui vous a intéressé, c'est ce lien si particulier qui unit l'auteur, Barry, à son œuvre, Peter Pan. C'est ça qui vous a intéressé surtout.
Oui, oui, tout à fait, parce qu'en fait, Barry l'a retravaillé toute sa vie. Il a même rajouté des scènes quelques années après avoir écrit la première version. Et il a notamment fait une pièce où, quand on la lit, ce qui frappe d'abord, c'est qu'on voit d'abord davantage les didascalies que le texte. Tout est expliqué, tout est résumé, tout est disserté, disséqué, les décors, mais aussi, et aussi les sentiments des personnages, ses propres intentions de mise en scène à lui, puisqu'il était aussi metteur en scène. Et c'est ça qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de matière. Et après, on pouvait aussi se l'approprier de la manière dont on pouvait le souhaiter.
Alors, vous êtes justement approprié cette matière. Alors, comment concrètement, ça se traduit comment, cette appropriation ?
Bah déjà, en fait, l'histoire de Peter Pan, tout le monde voilà, connaît la trame principale grâce justement à tous les films qui ont été faits. Mais vraiment, en fait, dans la pièce, on se rend compte qu'il y a plein de recoins en fait qui ont été laissés dans l'ombre entre guillemets et que personne oui voilà exactement et que voilà personne n'a mis vraiment en avant et du coup on s'est approprié ce projet en choisissant en particulier un axe qui avait été suggéré par Barry dans la pièce de théâtre sous forme de didascalie mais qui n'avait jamais été clairement mis en avant de sa part ou de la part d'autres mises en scène et du coup on a retravaillé la pièce pour mettre ça vraiment au premier plan. On a rajouté des scènes, du coup, pour vraiment voilà, personnaliser notre version de Peter Pan.
Et cet axe qui vous a intéressé, c'est le lien finalement très ambigu entre Peter Pan et le Capitaine Crochet. Parce que donc vous avez travaillé, vous avez fait un gros travail de recherche, vous avez lu la pièce, vous avez lu les brouillons, vous avez lu des biographies de Barry, toute la matière, on va dire, qu'il y avait autour de Barry, et vous vous êtes rendu compte que Peter, effectivement, qu'on voit un petit peu de manière caricaturale, comme le jeune héros, gentil, etc., et qu'on oppose à Crochet, le méchant, le cruel, avec justement son crochet qui fait peur aux enfants, et ben c'est un petit peu plus compliqué que ça.
C'est ça. En fait, dès la pièce, il y avait dans les didascalies des sous-entendus comme quoi Peter Pan serait un crochet en devenir. Et qu'à partir du moment où il se débarrasse de Crochet, il prend la place en fait du capitaine jusqu'à un nouvel enfant arrivera peut-être et deviendra son remplaçant à lui, Peter Pan. Et donc nous, c'est à partir de ça où on s'est dit, ça rend l'histoire encore plus intéressante parce qu'elle elle parle de l'enfance, bien sûr, mais elle parle aussi de ce que c'est que de devenir adulte. Et l'idée de cycle entre ces deux personnages, enfin, pour nous, crée un sens dramatique aussi extrêmement intéressant et beaucoup plus profond. Et en tout cas, moi, dès que j'ai découvert cette pièce-là, je trouvais que ce pauvre capitaine Crochet, il y avait un truc supplémentaire avec lui qui n'était pas forcément exploité parce qu'il y avait voilà, des choses amorcées, mais qu'on n'allait pas au bout de ce personnage-là, comme de celui de Peter Pan, qu'on caricature et qu'on voit comme un héros parfait, alors que dans la pièce, c'est davantage, pardonnez-moi l'expression, mais une tête à claque qu'autre chose. Voilà, du coup, c'est ça aussi qui nous a intéressé, je pense.
Alors, tu parlais de cycle, et ça, c'est quelque chose, Juliette, qui vous a particulièrement intéressé, parce que sur scène vont se relayer des Peter Pan et des Crochets.
Voilà, tout à fait. Et puis aussi un nouveau cycle qui est supposé peut-être commencer ou pas. C'est ce qu'on interroge aussi avec l'arrivée de Wendy à Neverland. Est-ce que son arrivée vient briser le cycle ou est-ce que un nouveau cycle démarre après ça? Donc voilà, c'est ce qu'on a voulu interroger dans notre mise en scène.
Et d'où votre volonté finalement, on l'entend depuis tout à l'heure, d'un retour aux sources. Vous avez essayé de dégager la matrice originelle de cette histoire. Et c'est pourquoi vous avez même opéré un travail de réécriture de certaines scènes, vous en avez changé dans le texte même de Barry?
Alors, on a plus rajouté que supprimé, en fait. Parce qu'on a gardé vraiment, on va dire, 85% du texte de base. On n'a rien touché à ça. On a fait quelques modifications pour plusieurs aspects qui nous paraissaient peut-être pas primordiaux, je pense, vu ce qu'on voulait faire au niveau de notre intention.
Votre axe, oui.
Ouais, de l'axe, absolument. Et sinon, non, c'est juste des rajouts assez courts en plus. On n'a pas du tout essayé de se prendre pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire capable d'améliorer la pièce de Barry. C'est pas du tout le but, au contraire. C'est de faire quelque chose qui est différent et de montrer cet axe de façon un peu plus claire qu'il est présent dans la pièce déjà.
Retour aux sources et appropriation, on peut dire ça?
Oui, surtout qu'en plus, à la lecture, la pièce de Barry, en fait, n'a vraiment pas vieilli. Enfin, le texte se lit vraiment très bien. Comme le disait Vlad, on a juste supprimé quelques passages où là, vraiment, l'époque était trop...
C'est trop daté.
Trop présente. Donc voilà,
on est en 1904. Voilà. Plus d'un siècle, c'est normal qu'il y ait des petites choses à changer.
C'est ça, le côté machiste ne plaisait pas à tout le monde. Il a fallu reprendre certaines choses.
Non, c'est vrai que l'idée de Wendy qui allait faire le ménage de printemps chez Peter tous les ans, c'était pas...
C'était lié à l'époque aussi.
Donc vous avez changé.
Ça. Voilà. Quelques petits détails. Ouais.
Alors les ombres de Peter Pan, on a compris en vous écoutant, c'est à la fois les côtés sombres d'un personnage qu'on a trouvé angélique, enfin que la tradition a trouvé angélique. C'est aussi les références à la vie de Barry qui sont cachées comme ça dans les recoins de ce roman et puis avant de la pièce. Mais c'est surtout votre pièce, les ombres de Peter Pan, une pièce féerique et mélancolique, une pièce grave et amusante, un voyage au-delà de l'imagination, au-delà des ombres, donc. Et pour cela, vous avez créé, on l'a entendu tout à l'heure, un spectacle qui lie tous les arts possibles. Alors, théâtre, mais aussi cinéma, danse, chant, musique, cirque. Pourquoi cette envie d'une pluridisciplinarité pour évoquer les ombres de Peter Pan?
Du coup, le but numéro un, c'était si on attaque Peter Pan, si on s'attaque pardon, à Peter Pan et qu'on veut créer un monde imaginaire, la meilleure façon semblait de convoquer, comme tu le dis justement, différents arts, sachant qu'on vient aussi tous d'arts différents plus ou moins, puisque moi j'ai une formation plutôt en cinéma, Juliette en théâtre, le compositeur lui vient plus de la musique bien entendu, c'est logique. Et du coup on s'est dit que ça pouvait vraiment marcher de relier tout ça ensemble et de faire un spectacle vivant qui arriverait à convoquer tous ces arts et qui du coup servirait le propos aussi et mettrait en avant le monde imaginaire et ce monde précis qui est celui de Barry.
En fait, ouais, on voulait créer un projet vraiment où tout le monde pouvait se rencontrer. Donc justement, on a fait plein de rencontres vraiment très chouettes, toutes des personnes d'horizons différentes, mais qui voulaient porter ce projet, quoi, qui voulaient vraiment l'animer. Et du coup, chacun a été en mesure de créer une partie du spectacle, d'apporter vraiment sa propre contribution à cette création. Et voilà, du coup, je pense vraiment qu'on a fait un spectacle spectacle, en tout cas qui nous ressemble à tous et à chacun. Et on espère que le public pourra s'y reconnaître à l'intérieur aussi, quoi.
Et puis surtout, il y a forcément quelque chose qui va animer. L'idée, c'est d'insuffler un rythme aussi.
C'est d'insuffler la surprise aussi. Ouais. C'est de dire, voilà, vous allez venir voir une version de Peter Pan qui ne sera pas forcément une version comme vous avez l'habitude de la voir ou de la voir. Faites certes avec peu de moyens au regard de ce qui a pu être fait à Broadway ou par exemple dans d'autres mises en scène plus récentes sur Paris ou même sur Londres. Mais on va essayer de vous surprendre, voilà, par des procédés qu'on espère qui vous surprendront, enfin originaux du coup.
Et puis l'idée, c'est que le spectateur se mette aussi dans la peau du petit garçon qui peut avoir vu Peter Pan, mais aussi de l'adulte qui, en 1904, a pu voir la pièce de théâtre.
Oui. Tout à fait.
Et l'idée, c'est de nous emmener au pays imaginaire ?
Oui. Oui, dans notre monde imaginaire.
Dans votre monde imaginaire.
À chacun.
À chacun son monde imaginaire. J'espère que le nôtre plaira et surprendra aussi.
Et ben en tout cas, réponse les 12, 13 et 14 décembre à 20h30 en Théâtre Cantor. Vous pourrez donc voir les ombres de Peter Pan que vous mettez en scène. Juliette et Vladimir, on vous retrouve aussi sur scène ?
Oui.
Oui.
Alors, et vous n'êtes pas tout seul. Alors là, je prends un peu de souffle pour annoncer toute l'équipe, puisqu'à vos côtés,
pourquoi
il y aura Laurine Wolf, Kevin Bardin, Lisiane Mira, Yves Devine, Caroline Malandran, Octave Cheruy, Thomas Brunol, Venceslav Lichus.
C'est de la famille.
Oui, c'est ce que je me suis dit en...
C'est ça. C'est tout à fait ça.
C'est ça. Nicolas Rouillon aussi, Jenny Leclerc, Sarah Ayoub, Émeric Raffin, Julien Philippe, Fabien Ardila et Clément Zebbeni.
Tout à fait.
Sans oublier, c'est pas fini, la chorégraphe Cécilia Nguyen Van Long, les compositeurs Kevin Bardin et Carole Boulanger, au costume Adeline Bidon, Marion Kapler et Émeric Raffin, aux lumières Ludovic M, au son Florentin Drujon, aux effets scéniques Clément Thomasson et au maquillage Amandine Bardin. Grande distribution, et pour un beau projet.
On a des danseuses qui se sont rajoutées aussi chemin.
Oui, bah, tous les jours se rajoutent des personnes en fait, donc c'est une sacrée aventure. Mais en tout cas, oui, grosse distribution. Justement, ce qui est aussi très chouette, c'est de voir qu'autant de personnes ont envie de faire quelque chose de bien ensemble. Et j'espère que toute cette énergie-là va déboucher sur ce que nous, on souhaite, c'est-à-dire un spectacle de qualité auquel le public va vraiment, vraiment prendre du plaisir.
Bah, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci d'être venu en tout cas pour présenter ce spectacle.
Merci beaucoup.
Merci.
Rendez-vous au Théâtre de Vénissieux à présent, transformé en l'espace de deux représentations, les 13 et 14 décembre prochains, en Théâtre du Palais Royal, là où le 11 mars 1672 était donné, pour la première fois, les femmes savantes. Bienvenue chez Molière, donc bienvenue dans une famille déchirée en deux, au nom du bel esprit. D'un côté, Philaminte, sa fille Armande et sa belle-sœur Bélise, farouchement opposées au mariage, éprises de poésie, de philosophie et de science, et qui sont sous l'emprise d'un faux savant aux dents très longues, le fameux Trissotin. De l'autre, les garants du naturel, Chrysale, bourgeois asservi aux caprices de sa femme, Philaminte. Et puis, dans son camp également, son frère Ariste, Henriette, sa seconde fille, très gracieuse, sans compter le bon sens de la servante, Martine. L'histoire, c'est celle de Clitandre, le soupirant d'Henriette, qui a décidé de l'épouser et elle y consent. Mais pour cela, ils vont devoir obtenir le soutien de la famille. Alors si ça pose pas trop de problèmes pour Chrysale et Ariste, le père et l'oncle, les trois femmes savantes s'y opposent pour des raisons très différentes. Celle de Philinte, la mère, c'est qu'elle veut qu'Henriette, sa seconde fille, épouse Trissotin, pour asseoir son alliance avec la science et la philosophie. Bienvenue donc dans une des dernières grandes comédies de caractère et de mœurs de Sieur Jean-Baptiste Poquelin. Et pour en parler, je reçois Agnès Larocque qui assure la mise en scène de cette adaptation, donc de la pièce de Molière créée au Théâtre de Vénissieux par la compagnie du Détour et que vous pourrez découvrir les 13 et 14 décembre. Bonjour Agnès Larocque.
Bonjour.
Alors pourquoi ce choix de monter, de mettre en scène cette célèbre comédie de Molière, pièce en 5 actes, en alexandrin, donc une forme très classique, alors que justement, il me semble que c'est la première fois que votre compagnie décide de monter une pièce du répertoire classique.
Oui, tout à fait. Effectivement, jusque-là, notre compagnie créait ses spectacles, les écrivait et s'orientait vers des formes toujours très burlesques où les personnages étaient toujours mis en défaut dans des situations à la fois de corps et de scénario qui tendaient en permanence vers le ridicule. Donc un théâtre essentiellement de corps. Nous bâtissions des projets autour de thèmes de société qui nous énervaient un peu, comme la souffrance au travail, etc. Et Les Femmes Savantes, ça arrive un petit peu par hasard dans cette suite de ce voyage autour du théâtre burlesque. La première raison, c'est que je voulais depuis un petit moment travailler avec cinq actrices.
Mais on y reviendra, oui.
Et ensuite, m'attaquer à une comédie écrite déjà depuis très longtemps, donc un classique finalement. Je me suis tournée vers la comédie toujours avec ce souci de raconter des histoires et de dénoncer certaines choses par le rire. Les Femmes Savantes, je les ai rencontrées il y a 20 ans quand j'étais jeune élève au conservatoire de Clermont-Ferrand.
Oui.
Et c'est une pièce qui m'a à l'époque beaucoup, beaucoup amusée à traverser, en tout cas en tant que comédienne. J'ai trouvé aussi dans cette pièce une chose rare, c'est cinq rôles de femmes, tout bêtement. Ce qui est très très rare dans tous les classiques qu'on peut lire et compiler. C'est assez compliqué de trouver des rôles féminins pour cinq comédiennes. Là, il y en avait cinq. Donc j'ai creusé un petit peu, je l'ai relu plusieurs fois. Et on s'est dit que c'était tout à fait la bonne pièce pour déjà nous continuer à défendre un théâtre burlesque. Aussi faire un hommage aux actrices. Et puis parler à travers cette pièce, qui est un peu paradoxale mais quand même, d'un certain féminisme, même si Molière dans cette pièce s'en moque assez ouvertement et même violemment parfois.
Oui, parce que c'est pas n'importe quelle pièce que vous prenez, pas n'importe quelle pièce de Molière. À suivre Émile Faguet, qui était un auteur et un critique du début du siècle dernier, il disait que c'était la comédie la plus complexe de Molière. Et il disait, il y a dans Les Femmes Savantes une comédie, une farce et une thèse. Ça fait beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que Molière, il fait le choix avec Les Femmes Savantes, une comédie en cinq actes et en vers, pour enrichir l'éternelle histoire des amants contrariés dans leur plan par une mère ou un père ridicules et qui vont être sauvés in extremis par l'action de l'artifice à la fin. Et pour cela, donc, il réutilise, comme l'a montré Georges Forestier, la structure du Tartuffe pour Les Femmes Savantes. C'est exactement la même structure, sauf qu'il remplace la dévotion par la pédanterie, ici. C'est donc une pièce où Molière, on le voit bien, il réfléchit beaucoup sur son théâtre, sur le comique. Et d'ailleurs, il multiplie les registres du comique, il le fait alterner avec des passages vraiment émouvants, vraiment dramatiques. Il creuse cette question des changements de registre et on rit beaucoup, mais derrière, il y a toute cette réflexion. Alors, est-ce que c'est ça aussi qui vous a intéressé, cette réflexion sur c'est quoi le comique ?
Oui, aussi, bien sûr. C'est effectivement une pièce de maturité qui suit 20 ans plus tard. Les Précieuses Ridicules, son premier opus, on va dire, sur la préciosité incarnée par un certain monde féminin. Et dans cette pièce, effectivement, mais comme dans moi, ce que je pense du théâtre burlesque, on est à la fois dans de la comédie en permanence, des gens qui ratent, qui sont entravés dans leur désir, et aussi un théâtre, le contrepoint est toujours là, c'est le tragique. Nous, on décide d'en rire, parfois moins. Mais cette pièce, pour nous, ouvre effectivement toutes les fenêtres à la fois du rire et du drame. La gageure un peu aussi, c'était de confronter une langue aussi exigeante et même aujourd'hui un peu rébarbative qu'est la langue de l'alexandrin.
Oui, bien sûr. Oui.
À une forme physique, corporelle, où les acteurs ne font pas que dire et se promener dans un salon, mais vont aussi agir entre eux ou agir entre eux à travers des objets, des manipulations. Donc on est à la fois dans un bras de fer entre une écriture entre guillemets rigide et exigeante et un corps vivant, entravé, risible, ridicule, musclé. Et ce bras de fer qu'on fait ouvre effectivement à la fois une lecture très comique, très décalée et à la fois tragique. En général, dans Les Femmes Savantes, on ne se touche pas, on parle, on discute, on discourt. Ici, il y a des actions, comme des gifles, des chutes, des assiettes qui volent, enfin des bols qui se cassent, des actions violentes, mais qui font partie de tout le vocabulaire burlesque du cinéma muet, par exemple, des années 20.
C'est-à-dire que vous êtes quand même pas à faciliter la tâche, vous prenez un classique quand même très complexe, même s'il n'est pas compliqué, il est complexe, et vous dites, on va encore plus complexifier la chose pour ouvrir encore plus de possibilités, et notamment grâce à cette forme burlesque, je vous cite, qui redonnera du corps là où tout concourt à l'éviter. Alors, pourquoi ce choix justement du corps ?
Ce choix du corps, pour moi, il est inhérent et indispensable à la forme burlesque que j'ai envie de faire traverser à tout ce que j'entreprends artistiquement. C'est fondamental. Moi, je viens d'une formation de corps aussi en tant que comédienne. J'ai fait l'école Lecoq à Paris, qui est une école sur le mouvement plus que sur le dire. très exigeante à cet endroit-là. Et moi, j'ai besoin de fabriquer un théâtre d'acteurs, d'acteurs qui parlent et d'acteurs qui bougent. C'est essentiel dans ma démarche. Là où aussi on ne s'est pas simplifié la tâche, c'est qu'on est 5 comédiennes à jouer tous les rôles.
C'est ça, oui.
Je vais pas en parler peut-être
tout de suite. C'est l'originalité de votre mise en scène, on peut en parler tout de suite. C'est qu'il n'y a que des femmes sur scène. Alors j'ai lu en préparant cette émission, et vous l'avez dit, que vous avez envie, vous aviez envie de ne travailler qu'avec des comédiennes. Alors est-ce que c'est un pied de nez aux misogynes de tous les temps, ou alors c'est que vous en avez vraiment marre des hommes en général, et au théâtre en particulier?
Alors non, j'en ai pas marre des hommes, c'est un pied de nez à la misogynie ambiante qu'on trouve dans ce texte. Il s'agit quand même d'un texte où, pour la première fois, Molière décrit un clan matriarcal, et c'est nouveau dans son œuvre en tout cas. Donc certains trouvent, j'ai déjà entendu des interviews à cet endroit-là dire que cette pièce est féministe, je ne trouve pas. J'ai l'impression plutôt que Molière se moque du féminisme en caricaturant un peu ces femmes qui se gargarisent d'un imposteur et donc qui se trompent un petit peu de héros, entre guillemets, je vais un peu vite là, mais bref. Donc moi, cette volonté de faire tout jouer à des comédiennes, c'est pour me moquer un petit peu finalement de Molière, se moquant du féminisme. En faisant endosser tous les rôles masculins et féminins à des femmes, on se moque autant des rôles féminins que des rôles masculins, tout le monde y passe. Et cela est, appuyé encore un peu plus par le choix de la scénographie qui est une cuisine, où là, on sort du salon un peu classique et on se retrouve dans une cuisine, lieu aussi... féminin, entre
Alors,
guillemets.
Justement, on le disait, il y a uniquement des femmes sur scène.
Oui.
Les femmes, elles assument à la fois les rôles masculins et les rôles féminins. Et où est-ce que vous les mettez? Dans une cuisine. Alors, dit comme ça, résumé comme ça, je le fais exprès, ça fait un brin cliché machiste, hein, quand même. Alors, rassurez-moi, vous appelez bien Agnès Larocque, pas Éric Zemmour. Hein.
Non.
Alors, j'ai bien lu votre dossier de presse que m'a envoyé Alexandra Sauquet, qui se trouve d'ailleurs derrière la vitre. Alors, j'en profite pour la remercier, au passage, la vitre de la régie, évidemment. Alors, j'ai bien vu que vous appelez pas Éric Zemmour, j'ai vérifié, hein, Agnès Larocque.
Oui, c'est
bien. Vous faites de la cuisine le laboratoire du burlesque. Alors, expliquez-nous.
C'est un laboratoire parce qu'une cuisine, c'est un lieu concret. Le théâtre burlesque, le burlesque se nourrit de concret en permanence. Dans un salon, après avoir fait le tour du canapé, du fauteuil et de la bibliothèque, on aura un peu tourné en rond. Une cuisine va nous donner, au contraire, matière à semer la pagaille en fonction de ce que vont rencontrer les personnages sur leur trajectoire pendant 5 actes. Donc c'est pour nous un laboratoire aussi de recherche autour du théâtre burlesque, un laboratoire d'objets, de matière, de nourriture à boire, à manger, qui va permettre d'accompagner cette histoire, les femmes savantes, et de l'incarner de plus en plus. Et c'est comme une cour de récréation finalement, où on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir casser la scène d'après, ou en tout cas... manger ou...
C'est une scène de récréation, mais c'est aussi une magnifique scène pour comprendre ce qui se passe dans la tête des personnages. Parce que...
Complètement. C'est-à-dire que les habitudes culinaires de certains vont venir appuyer leur caractère, puisqu'on est dans une comédie de mœurs et de caractère aussi. Donc on s'est amusé. Parfois, on n'a pas eu le loisir de se focaliser trop là-dessus, parce que le choix était aussi de faire de cette pièce une adaptation pas trop longue, d'une heure 20-25. Donc il a fallu faire des choix. Mais on va suivre certains personnages sur leur trajet culinaire. On s'amuse par exemple avec cette scène d'exposition qui est assez complexe au départ entre les deux sœurs, à la poser à l'heure du petit déjeuner le matin avec un bol, des céréales, du Nutella, etc. Et on essaie de faire en sorte que les choses se passent le plus mal possible, comme dans le théâtre burlesque. Et là, c'est écrit, donc on ne s'en prive pas.
Et puis alors, cette cuisine, elle vient aussi contredire un peu la pièce, puisque dans cette pièce, les femmes savantes, c'est le bel esprit. Et là, vous les mettez dans la cuisine avec des cornflakes en plus.
Oui, complètement. Ça contredit. Et puis c'est même un non-sens presque, parce que comme on est chez des bourgeois, il aurait fallu représenter ça normalement dans le salon où l'on reçoit. Là, on est dans le lieu de Martine, finalement, cette servante de cuisine, qui est d'ailleurs mise à la porte assez vite. Donc c'est presque un contresens, qui est volontaire d'ailleurs, hein. C'est aussi une manière de tordre un peu la tradition, de nous amener vers autre chose, d'être impoli,
mettre un... Transgressif.
Un peu transgressif, un peu culotté.
Ouais.
Voilà.
Et puis forcément, cuisine, comique burlesque. On pense, et vous le disiez, aux héros de cinéma muet du début du siècle dernier, qui faisaient vraiment un point d'honneur à tout casser.
Exactement.
Alors les femmes savantes, est-ce qu'elles risquent pas un peu de se changer en femmes souillantes ?
Non, pas souillante, en femme cassante.
Cassante. Il va y avoir des choses qui vont voler.
Oui.
Pas de nourriture peut-être quand même.
Si,
un
aussi.
Peu de nourriture.
Oui, oui, quand même, oui, oui. Oui, oui, c'est important. Il y a du désordre dans cette pièce. Alors, il est écrit avec des beaux mots, avec le beau langage. Donc, en général, on reste à cet endroit-là. Mais le mariage des deux a été aussi un peu un défi qu'on a voulu relever et ça se passe pas si mal que ça, je trouve, à l'arrivée. C'est plutôt réussi, cette alliance entre l'esprit et le corps, hein, ce que raconte la pièce en permanence.
Et donc, il risque d'y avoir de la purée dans l'air, on va dire ça pour résumer.
Un petit peu, oui.
Atmosphère burlesque, on l'aura compris, pour les femmes savantes. Et ce regard burlesque, on l'a touché du doigt déjà avec cette interview, ce rire critique insolent. C'est quelque chose que vous cultivez avec la compagnie du Détour.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette compagnie que vous avez fondée avec Laure Seguette, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, avec Laure Seguette. C'est une compagnie qui a 12 ans d'existence. Effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pratiquer, à travers nos différents choix de spectacle, de création, un rire, ce qu'on appelle un rire de résistance. Alors, on essaie d'éviter le rire de divertissement parce que ça ne nous amène pas
à grand chose,
mais de proposer des spectacles avec des thèmes engagés qui portent à réfléchir, mais par le rire, ce qui fait que nous, ça nous permet aussi de rencontrer un public assez large. On peut aussi bien aller jouer dans une campagne profonde où certains publics n'ont jamais vu un spectacle de leur vie et viennent découvrir notre travail. Et des abonnés de scène nationale, par exemple, qui, eux, ont l'habitude et viennent écouter plus peut-être un fond qu'une forme. Mais on arrive à fabriquer un théâtre populaire, exigeant. On évite vraiment, on ne se facilite pas toujours la tâche, mais
on vient de le voir dans l'interview qu'effectivement vous n'êtes pas facilité la tâche, parce que vous avez creusé vraiment toute cette matière, et ça prouve qu'on peut être populaire sans être simpliste. Et ça,
oui,
déjà, c'est...
Complètement,
c'est
crois. Et ça permet d'élargir un peu les rencontres, autant avec des jeunes d'ailleurs qu'avec des personnes adultes, etc. Nous, on a envie le rire, pour moi, c'est un passeport essentiel et évident pour la plupart des gens, en tout cas pour créer de la curiosité, pour ceux qui n'en ont pas trop ou qui ont peur de s'ennuyer au théâtre, etc. Donc là, on propose quand même un texte. Donc certes, on a déjà croisé des spectateurs qui nous ont dit les femmes savantes, on n'avait pas trop envie de venir parce que c'est quand même une pièce.
En Alexandrin, en plus.
Voilà, c'est un peu lourd, mais à la sortie, ils étaient plutôt très étonnés et ravis de la forme qu'on y a mise. Et sans entacher la lecture et la compréhension de cette œuvre.
Et toutes les lectures, on peut même dire.
Et toutes les lectures.
Et justement, vous parlez de ces rencontres que vous affectionnez et qui sont magnifiques dans votre travail. C'est ce que vous allez faire aussi, puisque la compagnie de Détour, elle entame cette saison une résidence sur 2 ans au Théâtre de Vénissieux. Et vous allez porter à cette occasion le nouveau projet de territoire du Théâtre de Vénissieux, La Petite Babel. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, La Petite Babel, il s'agit d'un projet de territoire où nous allons mener des ateliers pendant 2 ans avec des populations diverses comme des collégiens, des lycéens, des centres sociaux, la Majo qui est un centre d'hébergement, Aralis aussi. Et à partir de ces ateliers, on va inventer avec le public que l'on aura, c'est avec eux qu'on va vraiment inventer cette histoire, un spectacle dans 2 ans qui sera issu de ce travail de chantier qu'on aura mené avec eux, d'écriture autour du futur dont on a envie. Nous, toujours avec notre souci de décaler les choses.
Burlesque.
Voilà, burlesque par le rire, mais par aussi la... l'ironie, un rire impoli, mais toujours nourri des populations qu'on rencontre, qu'on fabrique, on fabriquera ce spectacle avec eux et non pas en se servant de la population qu'on va rencontrer. C'est vraiment basé sur une rencontre, une ouverture. Nous, c'est nouveau pour nous, c'est essentiel. En plus, ça nous arrive à un bon moment de maturité pour la compagnie, de s'installer quelque part et de continuer à questionner notre travail avec des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées autrement.
Donc c'est un beau projet.
C'est un très beau projet, humain et artistique, très excitant.
Et avant ce beau projet, on peut découvrir votre adaptation des Femmes Savantes, les 13 et 14 décembre au Théâtre de Vénissieux, avec sur scène Adeline Benamara, Frédéric Moreau de Belin, Valérie Larocque, Irène Chauve, Laure Seguette. Sans oublier à la scénographie Simon Laval, aux lumières Alban Martin, au costume Benjamin Moreau et au maquillage Pascal Jehan. Merci Agnès Larocque.
Merci Thomas.
C'est maintenant la fin de l'émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Xavier et Jérôme à la technique, sans qui cette émission n'aurait pas pu se faire. Encore un grand merci à tous nos invités, Estelle Baudou et Claudine Charnet, qui nous présentaient Chambre avec vue sur le fond des mers, à découvrir du 11 au 16 décembre 2012. Vladimir Lifschutz et Juliette Père, qui nous présentaient Les ombres de Peter Pan, que vous pourrez applaudir les 12, 13 et 14 décembre à 20h30 en Théâtre Cantor. Et enfin Agnès Larocque, qui est encore en studio et qui met en scène Les Femmes Savantes au Théâtre de Vénissieux le 13 et 14 décembre. Notez bien. Alors j'espère vous avoir donné de quoi occuper votre mois de décembre et de quoi vous faire plaisir en attendant les fêtes et leur lot de cadeaux et de chocolat. Nous irons bien évidemment voir tous les spectacles que nous avons présentés dans cette émission et vous pourrez écouter dans le prochain numéro dans le Spectateur nos critiques. Ainsi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 14e numéro d'En Spectateur et vous pourrez écouter l'interview de Patrick Azopardi qui nous parle du Messie d'Handel joué à l'Opéra de Lyon du 3 au 14 décembre et de son métier de régisseur de scène et juste après, les critiques de la pièce que nous serons allés voir. D'ici là, surtout, n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au cinéma. Bref, n'oubliez pas de vivre En Spectateur.